Alors, je voudrais commencer pour être parfaitement, disons, transparent avec vous tous, par vous dire que j'ai une double casquette, hein, au fond, comme enseignant dans une faculté de théologie protestante. Je suis à la fois historien et théologien. Et je pense que c'est une question d'honnêteté intellectuelle de souligner le fait que, comme théologien, je me rattache à un mouvement qui est le mouvement libéral protestant ou protestant libéral français. Je suis même depuis octobre le président de ce mouvement qui édite un journal qui s'appelle Évangile et Liberté, qui est là. Alors, je ne fais pas de pub trop longtemps. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans la tradition du mouvement théologique, il y a, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis le début du XIXe siècle, une valorisation de l'héritage des Lumières du point de vue théologique. Donc, je vais vous parler des Lumières en historien, le plus possible en historien, en essayant de mettre de côté ce qui fait partie, disons, de mes convictions. Mais je tenais à vous dire ça parce que, bon, si je vous parle de la réforme comme enseignant dans une faculté de théologie protestante, c'est évident que voilà, il y a ce cadre et que ce cadre est important. Mais bien évidemment, c'est autre chose si je suis en train de vous parler des Lumières. Excusez-moi un instant, j'ai un tout petit souci. On vient de sonner à ma porte. Je vais vite aller voir ce que c'est. Voilà, je vous prie de m'excuser. Vous m'entendez toujours?
Très bien.
Très bien. Excusez-moi, mais pour être encore plus transparent, j'ai un fils adolescent qui a le tennis et qui rentre en ayant oublié ses clés. Voilà, ça vous êtes au courant de tout. Donc, je tenais à insister sur ce point parce que, il me semble, voilà, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Je vais aborder ce sujet, je vous l'ai dit, en historien, mais je pense que c'est important que vous ayez cet arrière-plan pour comprendre aussi d'où je parle. Alors, donc, la question des Lumières et de leur rapport à l'humanisme et à la religion, hein, c'est une question, comme l'a rappelé Xavier, qui est extrêmement compliquée, hein. Et on a aujourd'hui, comme il l'a rappelé également, tout un débat sur les Lumières, une critique très forte qui aujourd'hui s'adresse à l'héritage des Lumières, avec ce qui a été dit, hein, cette accusation d'être au fond un paravent, un cache-sexe, pour le dire encore plus crûment, du colonialisme et de l'impérialisme, hein. Au fond, le message des Lumières, ce ne serait pas l'universalisme, l'universel humain, mais la volonté, au fond, de dominer la planète qui a mû les Européens. Alors, derrière cette question actuelle, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter parce que ce n'est pas celle qui, comme historien, m'intéresse, se cache une question qui est, elle, bel et bien historique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on entend, au fond, par les Lumières? Et effectivement, cette question n'est pas anodine du point de vue du débat contemporain, parce que, bien évidemment, en fonction de la réponse que l'on y donnera, eh bien, on n'aura pas le même rapport ensuite à ce dont on parle, positif ou négatif, hein. Alors, on a souvent voulu, et là, je passe à la dimension historique de mon propos, on a souvent voulu, au fond, résumer les Lumières à un corpus d'idées un corpus de textes et un corpus d'auteurs bien précis. Et de nos jours, vous avez encore ce type d'approche qui est pratiquée par un certain nombre d'auteurs, en particulier Bertrand Binoche, hein, qui a publié en 2018 aux éditions de La Fabrique un ouvrage qui s'appelle Écraser l'infâme, philosopher à l'âge des Lumières, et qui se veut une présentation de la, avec un grand L majuscule, philosophie des Lumières, hein, comme étant une réalité homogène. Parce qu'il entend défendre, dit-il, cet héritage des Lumières, de la pensée des Lumières, contre, au fond, une critique des Lumières qui émanerait de la droite. Il pense à Houellebecq, à Zemmour, etc., pour promouvoir une vision des Lumières qui soit une vision de gauche. Alors, me semble-t-il, c'est un débat dans lequel il ne faut pas rentrer, hein, si on veut rester historique, mais vous voyez que très vite, derrière, au fond, chaque approche que l'on pose des Lumières sur le plan historique, vous avez une question politique d'actualité qui se pose. Je reviendrai là-dessus en vous présentant quelques interprétations des Lumières. Mais j'aimerais commencer par vous proposer ma définition, qui est la mienne, mais enfin qui est aussi celle d'autres auteurs. Hein. Vous faisiez allusion à Antoine Lilti, effectivement, hein, c'est de lui dont je m'inspire pour cette définition que je vous donne ici. Hein. Les Lumières, et c'est comme ça que je vais l'entendre dans la suite de notre discussion, les Lumières sont un mouvement intellectuel, alors c'est indéniable, hein, du XVIIIe siècle européen. Parce que vous avez eu des tentatives de dire il y a des Lumières africaines, il y a des Lumières brésiliennes, que sais-je. Hein. Donc ça, disons, je laisse cette idée de côté. Je vais vous parler en tout cas de ce que je connais, de ce dont je peux vous parler. Ce mouvement des Lumières, c'est un mouvement qui est polyphonique et qui est divers. Je n'adhère pas du tout à l'idée selon laquelle il y aurait les bonnes Lumières qui méritent d'être appelées telles et les mauvaises Lumières qui ne seraient pas dignes d'être appelées telles. La distinction même qu'on pose souvent en histoire entre les lumières d'un côté et les anti-lumières de l'autre côté, elle est très, très problématique à appliquer dans la réalité. Vous avez tout un panel d'auteurs qu'on rangerait du côté des anti-lumières, mais qui en fait reprennent des idées des lumières pour les attaquer, ou en tout cas pour attaquer certains de leurs acquis. Donc là, en somme, cette distinction, elle n'est pas pertinente. Donc, un mouvement polyphonique et divers, dans lequel on peut même ranger ce qu'on considère parfois comme les anti-lumières. Un mouvement ensuite qui est profondément réflexif, c'est-à-dire que, et ça c'est un élément très intéressant quand on prend cet angle de lecture-là, pour lire les philosophes du XVIIe siècle, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, pardon, un mouvement qui cherche à comprendre au fond l'époque dans laquelle il se situe, le XVIIIe siècle, comme un moment de grande transformation, un moment de bascule, hein, j'ai employé ce terme, de l'histoire de l'Europe aux conséquences potentiellement mondiales. Parce qu'il ne faudrait pas croire, contrairement à ce que beaucoup aiment raconter, sans avoir forcément lu les auteurs en question, que les auteurs des Lumières, on regarde leur nombril européen, considèrent que c'est le centre du monde et ne font pas attention à d'autres réalités. Si vous prenez par exemple l'essai sur l'histoire des mœurs de Voltaire, qui paraît en 1756, qui est un texte absolument fantastique, c'est sans doute un des premiers essais de philosophie de l'histoire, hein, et c'est une des grandes problématiques qui émergent à ce moment-là. Si vous prenez par exemple cette philosophie de l'histoire de Voltaire, qui est un tableau sur les civilisations, hein, pour employer ce terme, il commence par parler de la Chine, du monde, du Proche-Orient, etc., pour décentrer précisément l'Europe. Alors, on peut lui faire d'autres reproches, hein, je veux dire, bien évidemment. Mais il ne faudrait pas penser que ces auteurs sont déconnectés au fond du monde. ils pensent le monde. Vous avez aussi le cas de Diderot, par exemple, qui dans l'encyclopédie et dans d'autres textes est un des premiers à dénoncer les dérives du commerce avec l'Amérique, de l'esclavage, etc. Donc là aussi, vous voyez, ces lumières, l'idée contemporaine selon laquelle ce serait au fond un paravent pour conquérir le monde, ben, vous avez des gens qui, au sein des Lumières, sont déjà critiques de cette dimension, précisément parce qu'ils regardent au fond leur époque et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et donc ce mouvement, autre élément que je rajoute à cette définition, à la suite d'Antoine Lilti, hein, c'est un mouvement dont les tensions et les failles, parce qu'il y a des failles dans les Lumières, il y a des ambiguïtés, des affirmations problématiques, voilà, on pourrait penser à l'antisémitisme probable, Voltaire, hein, ça par exemple c'est un des éléments qu'on reprend souvent, dont les tensions et les failles sont autant d'enjeux qui accompagnent l'entrée de l'Europe dans le monde moderne. Et donc, les Lumières, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est surtout, au fond, un regard critique posé sur ce que la modernité fait à la science, à la politique, à la culture, à la société et à la religion. Et donc, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que j'aimerais aller ce soir, hein, essayer de comprendre plus spécifiquement ce que c'est que les Lumières, au fond, en rapport à cette question de la modernité et aussi en rapport à l'héritage de ces Lumières. Parce que les Lumières, ce n'est pas, comme on l'imagine souvent, des penseurs qui jettent tout de côté et qui partent de zéro pour repenser leur philosophie politique, scientifique, etc. C'est comme Descartes, hein, somme toute. Descartes dit, j'ai tout mis de côté et puis je n'ai utilisé que ma raison. Les historiens de la philosophie, depuis une centaine d'années, savent, Descartes, non, il reprend des idées médiévales, renaissantes, etc. Donc c'est la même chose pour ces auteurs. Donc au fond, quel est le regard des lumières sur la religion en tant que, si vous voulez, regard posé sur ce que la modernité fait aux religieux. Alors, sur cette question, au fond, de la religion, du point de vue des lumières, là aussi, hein, on est dans un véritable champ de bataille, historiographique. Il faut l'admettre. Depuis le grand essai de 1938 de Paul Hazard, qui avait une approche finalement très, comment dirais-je, très française au sens de la philosophie française, très concentrée sur les auteurs français, vous avez tout un courant de lecture des Lumières qui a insister de manière très forte, continue d'insister aujourd'hui de manière très forte sur la dimension anti-religieuse des Lumières. Hein. Beaucoup d'auteurs contemporains, sans doute, m'entendant vous parler des Lumières et entendant ce que je vais vous raconter, seraient critiques vis-à-vis de ce que je dis et nous aurions sans doute un débat. Voilà, encore une fois, l'honnêteté intellectuelle commande que je vous dise ça, même si je pense que c'est une lecture qui est problématique. Alors, vous avez toute une série de noms, hein, qui se rattachent à ce courant de lecture-là, mais vous en avez un en particulier qui fait énormément parler de lui depuis, au fond, le début du XXIe siècle, depuis 2001, c'est l'auteur, c'est l'historien des idées, Jonathan Israel. Ça s'écrit comme le pays, hein, Israël, qui a publié en 2001 un ouvrage, Radical Enlightenment, qui est paru en 2005 en français, hein, Les Lumières radicales. Et c'est un gros pavé de quoi, 800 pages. avec plein de citations, de références, de présentations d'auteurs parfois inconnus, de grands auteurs comme Spinoza, etc., et qu'il a ensuite développé. C'est-à-dire qu'il s'intéressait là à la période 1680-1720, et il a ensuite continué jusqu'à son dernier opus, il en a fait quatre, du même volume, sur la Révolution française et ce qu'il a appelé les idées révolutionnaires. Et ce dernier livre, il est paru l'année dernière en France, hein, donc il est là, je l'ai avec moi, Idées révolutionnaires, voilà, c'est paru chez Buchet-Chastel. Vous voyez, c'est pas, hein, c'est pas rien. Nous avons donc 8000 pages. Voilà. Alors, bon, Jonathan Israel, il écrit beaucoup. C'est une pensée tout à fait intéressante et intelligente. Et quelle est au fond, mais à laquelle on peut adresser des critiques, et je n'y manquerai pas, quelle est au fond sa thèse? Et c'est important d'avoir cette thèse à l'esprit pour ensuite la remettre en perspective avec les éléments que je vais vous donner. Alors, la thèse de Jonathan Israel, c'est que, au fond, les lumières se répartissent en deux courants. Vous avez d'abord un courant des lumières dites modérées, dont le but est d'harmoniser la religion et la tradition chrétienne pour maintenir, au fond, cette tradition en la réformant. D'autant plus que cette religion, pour Jonathan Israel, c'est celle qui permet l'ordre politique, ou qui permet à l'ordre politique d'être maintenu, à savoir l'ordre de l'Ancien Régime, bien évidemment. C'est le courant des grands penseurs du siècle, Newton, Locke, Voltaire et Rousseau. Donc vous voyez que déjà, les figures classiques des Lumières, ce n'est pas les Lumières les plus fortes, les plus décidés. Ce sont des modérés. Voltaire qui veut écraser l'infâme, qui dit des choses scatologiques régulièrement à propos des prêtres, de l'Eucharistie, que sais-je, bah, c'est un modéré. Et ce ne sont pas donc ces auteurs-là, les révolutionnaires que l'on prétend, mais des modérés qui, de surcroît, étant en cheville avec le pouvoir, bon, c'est vrai, Voltaire, Frédéric II, Diderot et Catherine de Russie, qui n'étaient pas d'ailleurs que en cheville, si vous voyez ce que je veux dire avec elle. Enfin bref, il y a là incontestablement une réalité qui est connue, mais dont Israël tire au fond la conséquence que, bon, c'est les penseurs réformistes, quoi. Hein? Ils sont accusés de faire un peu. D'occuper finalement une position intermédiaire. Je n'ai pas envie de dire en même temps parce qu'on va tout de suite taxer ça de politiquement. Mais en gros, c'est ça, si vous voulez, sa lecture de ce courant modéré. Et à côté de ce courant modéré, il y aurait pour Jonathan Israel un courant plus radical qu'il appelle précisément les Lumières radicales. C'est une idée qu'on trouve déjà chez des philosophes politiques comme Léo Strauss, par exemple. Et qui est marqué, ce courant, par une autre philosophie. Cette philosophie, c'est celle de Spinoza. Une philosophie que Israël lit comme une philosophie athée, une philosophie matérialiste, une philosophie moniste, c'est-à-dire il n'y a qu'une réalité dans l'univers, c'est la matière. Ça s'oppose à Descartes, hein, à l'idée qu'il y a la matière et l'esprit. Là, je vous donne la lecture que fait Israël de Spinoza, hein, qui est aussi discutable, entre parenthèses. Et donc, cette vision principalement athée, hein, il y a quelques perdus qui croient encore en quelque chose, mais ce n'est pas la majorité, s'opposerait au fond à la vision classique de la religion, mais aussi aux lumières modérées. Ce serait le courant d'un Pierre Bayle. Ce serait le courant d'un Helvétius, d'un Toland, du baron d'Holbach, etc. Ce serait un courant par ailleurs profondément égalitaire et social, qui se serait d'ailleurs opposé par ses idées aux Lumières modérées, dans lesquelles on retrouve un certain Adam Smith, comme c'est amusant. Vous voyez, déjà là aussi, il y a un télescopage avec l'actualité. Donc, Lumière, bon, politiquement à gauche, hein, on retrouve cette idée qui était présente chez Binoche. Et ces Lumières radicales, ben, elles ne sont pas faciles à étudier parce que, nous explique Jonathan Israel, elles sont naturellement souterraines. Souvent contestés et opprimés, persécutés par les contre-lumières, bien évidemment, mais encore aussi par ces méchantes lumières modérées. Et ça ne les aurait pas empêchés, cependant, ces fameuses lumières radicales, d'être à l'origine des idées majeures de la Révolution française. Donc, vous avez ce courant un peu souterrain, radical, qui milite en souterrain régulièrement et qui, au moment de la Révolution française, pouf, explose et devient, au fond, le cadre intellectuel de la Révolution, d'où cette idée, hein, des idées révolutionnaires et donc de la prégnance de ce courant radical dans la Révolution française, que Jonathan Israel lit bien évidemment de manière un peu ambiguë, parce que bien évidemment la terreur, ça ne l'arrange pas. Donc là, pour lui, c'est le retour des lumières modérées qui imposent par le sang, etc. etc. Bon. Vous voyez de vous-même à la présentation que je vous en ai faite que c'est un ouvrage, une œuvre, parce que 4000 pages quand même au total, c'est une œuvre qui a un objectif actuel, et on est de nouveau dans cette problématique dont je vous ai parlé, hein. C'est que Israël, et il l'a dit lui-même, il y a eu des travaux qui ont été consacrés à ses œuvres, moi-même j'ai eu l'occasion de l'entendre à quelques reprises, ce qu'il veut, c'est fonder la légitimité des temps modernes et de la démocratie laïque contre la critique qu'en a faite dans les années 30 et 40 Carl Schmitt, le grand théoricien politique que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui lui légitimise au fond cette démocratie moderne au nom de toute une série de thèses politiques. Carl Schmitt, qui a été le théoricien hein, d'ailleurs du régime nazi sur le plan juridique, mais qui est un grand intellectuel par ailleurs. Et donc, qui a aujourd'hui, ce cher Carl Schmitt, beaucoup d'héritiers. Hein. Il est lu encore aujourd'hui chez beaucoup de politiques et de philosophes. Et ce qu'il veut aussi, deuxième élément, il s'en est ouvert dans une série de conférences qu'il a données à Oxford il y a quelques années, c'est redonner au fond, aux Lumières, un fondement stable et rationnel. C'est-à-dire dénoncer les critiques qui en ont été faites au nom du postcolonialisme, des mouvements décoloniaux et de ce qu'il appelle aussi lui-même le communautarisme. Donc pour lui, il faut défendre le modèle des Lumières contre le communautarisme. Et donc, ces Lumières, elles sont fondamentalement areligieuses, voire anti-religieuses. Alors, bien évidemment, cette thèse, même les tenants, si vous voulez, d'une vision à religieuse des Lumières, comme Bertrand Binoche, que je vous citais, elle est critiquée de manière assez forte. Hein. Jonathan Israel n'est pas sorti indemne, si vous voulez, de la soumission de ses idées à la critique. Mais enfin, voilà, c'est une œuvre qui, aujourd'hui, quand on parle des Lumières, est absolument centrale. Hein. On ne peut pas passer à côté de Jonathan Israel et de ses 4000 pages. Donc, avant de... Si vous voulez écrire un livre sur les Lumières, vous devez vous farcir les 4000 pages de Jonathan Israel. Alors, pourquoi, au fond, est-ce que je vous parle de lui? Parce que, dans le champ historiographique, on est obligé d'en tenir compte, mais aussi parce que parmi les auteurs dont il parle, il en est un qu'il range dans les Lumières radicales et que je connais un petit peu, sans être un spécialiste chevronné, hein, c'est le nom de Pierre Bayle. Alors, et c'est de lui dont j'aimerais vous parler maintenant, et ensuite, dans un deuxième temps, si nous en avons le temps, je vous parlerai un petit peu de Rousseau. Alors, pourquoi Pierre Bayle? Donc, je vous l'ai dit, Pierre Bayle, Jonathan Israel, le range parmi les auteurs radicaux, les disciples de Spinoza, qui, au fond, auraient opéré une critique sans concession de la religion, de la pensée politique. Bayle aurait été un matérialiste, athée, etc. Cette vision des choses-là, pour certains aspects de ce qu'en dit Jonathan Israel, est complètement saugrenue, il faut le dire clairement. Hein. D'un point de vue philosophique, il n'est pas du tout matérialiste. Il se rapproche plutôt de la pensée de Malebranche, qui est un héritier un peu dissident de Descartes. Donc on n'est pas du tout dans le spinozisme, même s'il a beaucoup lu Spinoza et s'en est inspiré hein, à certains égards. Mais on ne peut pas résumer Bayle à une espèce de deuxième Spinoza, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis sur la question religieuse, eh ben Bayle, aujourd'hui, c'est un auteur débattu. Vous avez des gens qui disent c'est un athée, ou du moins sa pensée conduit à l'athéisme, et puis d'autres gens qui disent, mais pas du tout, c'est un protestant, certes un peu hétérodoxe, mais enfin, il était croyant, ou en tout cas sa pensée est adaptable au protestantisme. Alors, je ne vais pas entrer dans cet autre débat, mais vous voyez qu'on est vraiment dans un champ de bataille hein, quand on aborde la question des Lumières, mais ce que j'aimerais plutôt faire avec vous, c'est essayer, en partant de Pierre Bayle, de voir comment, au fond, les héritages humanistes, d'une part, protestants ou réformateurs, d'autre part, et le contexte dans lequel Bayle pense, se réunissent pour créer au fond un creuset intellectuel qui est à l'origine d'une certaine forme de lumière et sur la question religieuse, plus précisément. Alors, la grande question, au fond, qui est rattachée au nom de Pierre Bayle, enfin la grande question, la grande idée qui est rattachée au nom de Pierre Bayle, c'est la notion de liberté de conscience et de tolérance. Alors, on peut faire une distinction entre la liberté de conscience et la tolérance. Je me permets de les prendre comme synonymes, même si ce n'est pas forcément tout à fait identique. Et quand on parle de tolérance en matière religieuse, on pense bien évidemment tout de suite à Voltaire, à son fameux traité de la tolérance, éventuellement à John Locke et à sa lettre sur la tolérance, mais on s'arrête au fond assez peu à la pensée de Pierre Bayle, encore que ça change un peu depuis quelques années, parce qu'on l'étudie beaucoup plus. Ce que l'on oublie aussi un peu vite, c'est que Voltaire a... Comme il est mort, on ne va pas lui faire de procès, mais Voltaire a pillé Pierre Bayle sur le plan intellectuel. Sans Pierre Bayle, sans la plupart des idées de Pierre Bayle, vous n'avez pas la philosophie de Voltaire. Beaucoup des idées que vous trouvez chez Voltaire, il oublie sciemment, et aussi parce qu'il n'a pas le temps et qu'il ne veut pas ennuyer ses lecteurs, il les prend chez Pierre Bayle. Mais avec un génie qui lui est propre et qu'il faut lui reconnaître, hein, c'est celui de la synthèse et de la formule. Au fond, si vous voulez, Voltaire, c'est Pierre Bayle pour les nuls, c'est-à-dire quelqu'un qui a un sens de la formule, de la mise en forme, de la présentation didactique. Et puis, un réseau, bien évidemment. Bayle, lui, est un philosophe de cabinet, c'est un érudit. Alors, quelques éléments de biographie rapidement. Hein. Donc, Pierre Bayle, bon, vous avez ses dates. Là, vous voyez qu'on lui a consacré un timbre-poste hein, en 2006 à l'occasion des 300 ans de sa mort. Ça a été l'occasion de plusieurs colloques, de publications à son sujet, donc qui nous permettent de mieux comprendre son œuvre. Si vous voulez lire des choses sur Bayle, je vous conseille vivement les travaux d'Hubert Bost. Donc, Hubert Bost, qui a été jusqu'à il y a 2 ans de ça le président de l'École pratique des hautes études et qui est un historien et un spécialiste de Pierre Bayle. Donc, il a fait une biographie de Bayle, qui est parue chez Fayard, etc. Alors, Pierre Bayle, donc, c'est un fils de pasteur protestant qui a eu un parcours un peu bizarre parce qu'un beau matin, il s'en est allé, il s'est converti au catholicisme Et puis, quelques années plus tard, il est revenu au protestantisme et ensuite a entamé des études de théologie et de philosophie. C'est intéressant de voir que c'est le même parcours que Rousseau. Rousseau, protestant de naissance, quitte sa Genève natale, devient catholique, trouve pas ça formidable et au bout de quelques années, il redevient protestant. Vous avez un parcours un peu identique. C'est très intéressant aussi parce qu'on imagine une époque où les frontières sont bien arrêtées, mais au fond, il y a beaucoup de gens qui font comme ça la navette entre les différentes religions. Au moment de la révocation de l'édit de Nantes, j'y reviendrai, il quitte la France où il a été professeur à Sedan et il gagne Rotterdam. Et il vivra là-bas de sa plume, bon, d'abord comme enseignant au gymnase illustre de Rotterdam. Et puis ensuite, à la suite de différentes difficultés avec la communauté des exilés protestants là-bas, au moyen de sa plume en particulier, en publiant une œuvre colossale et absolument phénoménale sur le plan à la fois intellectuel et érudit, qui est le Dictionnaire historique et critique, en 4 volumes, 5 volumes, ça dépend des éditions. Ce Dictionnaire historique et critique, à côté, les 4000 pages de Jonathan Israel, ça a l'air d'être le Reader Digest. Hein, donc, c'est une œuvre absolument phénoménale dans les sinuosités de laquelle les interprètes de Bayle continuent d'essayer de s'orienter aujourd'hui pour livrer une lecture aussi cohérente que possible de sa philosophie et de sa pensée. Or, sans entrer dans plus de détails à son sujet, sur le plan biographique, ce qu'il faut surtout garder à l'esprit pour la question qui m'intéresse ce soir avec vous, c'est le contexte qui est le sien, à savoir celui de la révocation de l'édit de Nantes et de ce que l'on a appelé le refuge huguenot. Hein. Alors, je vous remets. Ce n'est pas une image très claire. Hein. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de plus net, mais c'est pour vous donner une petite idée. Hein. Donc, pour aller vite, parce que ce serait un sujet en soi, en 1685, Louis XIV a révoqué ce que l'on appelle l'édit de Nantes, qui était cet acte par lequel les protestants français, à l'issue des guerres de religion, avaient au fond, l'autorisation d'exister comme communauté, d'avoir leur temple, d'avoir leur organisation religieuse, etc. Cet édit de Nantes, Louis XIV, qui vit dans l'idée qu'il est au fond une espèce de nouveau Cotentin à la française, va le révoquer en octobre 1685, à l'issue de toute une série de vexations, de restrictions et de persécutions à l'endroit des protestants, dont en particulier les fameuses dragonnades, hein, c'est-à-dire le fait d'envoyer dans certaines provinces occupées par des protestants en bonne partie, l'armée en lui disant, ben, vous n'avez pas de caserne là-bas, parce qu'à l'époque il n'y a pas de caserne, mais vous vous servez chez l'habitant. Vous vous servez, ça veut dire vous vous servez en foin, vous vous servez en nourriture, vous vous servez en lit et vous vous servez en femme et en enfant. Autrement dit, le viol était tout à fait autorisé, entre guillemets, ou en tout cas toléré. Donc, ça a été une réalité extrêmement violente. Et avec un seul mot d'ordre, au fond, pour les dragons, parce que c'est les dragons du roi qui faisaient ça, c'est si les gens veulent se convertir, alors à ce moment-là, vous les laissez tranquilles. Et s'ils ne veulent pas se convertir, ben, vous appliquez ce que je viens de vous décrire. Donc, cette situation extrêmement violente pour les protestants français, qui sont environ 1 million, elle va impliquer au fond 3 choix pour eux. Le premier, c'est se convertir, comme je vous le disais. L'autre, c'est d'entrer dans la clandestinité, avec les conséquences que ça peut avoir, puisque un tel choix vous conduit désormais aux galères, où vous pouvez ramer pendant quelques années, hein, on dispose historiquement parlant de une série de récits de galériens, c'est-à-dire de protestants français qui ont accepté d'être envoyés aux galères, c'est-à-dire d'être attachés à une rame et de ramer pendant 10, 15, 20, 30 ans, tout en étant joyeusement fouettés. Vous en avez un exemple d'ailleurs, puisque on a eu la tristesse de perdre Robert Hossein il n'y a pas très longtemps, hein, dans un des fameux Angéliques Marquises des Anges, vous avez un passage où Robert Hossein, si je ne me trompe pas, rame sur une galère. Et ben, c'est tout à fait ça, n'est-ce pas, ce qui attend les protestants. Et donc, La dernière option, et qui va être celle que la plupart d'entre eux vont choisir, avec la conversion, sincère ou pas, c'est l'exil. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle le refuge huguenot, c'est-à-dire la plus grande migration pour cause de persécution religieuse dans l'histoire de l'Europe, jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a pire. On estime qu'il y a environ 200 000 protestants français qui quittent le royaume. Vous avez ça sur cette carte, pas très bien imprimée, je m'en excuse. Ils quittent la France pour aller en particulier vers les pays principalement protestants, les cantons suisses, l'Angleterre, les provinces unies, le Danemark, la Suède, un peu moins. Certains vont même aller jusqu'en Russie, mais principalement l'Allemagne et les trois grandes régions où ils s'installent, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. Puis, depuis l'Angleterre, certains vont aller vers les colonies. D'une part, donc, les futurs États-Unis. Vous avez encore aujourd'hui des familles qui descendent de Huguenots, de protestants français. Et puis, de l'autre, l'Afrique du Sud, où les protestants français sont une petite minorité qui, là, il faut aussi le dire, va être très active sur le plan politique et économique en Afrique du Sud. Alors, cette situation va être le creuset d'une nouvelle conception de la tolérance qu'on retrouve justement sous la plume de Pierre Bayle. Une nouvelle conception de la tolérance parce que le concept de tolérance, et même de tolérance dans des questions religieuses, il existe déjà depuis le XVIe siècle. Mais c'est au fond un concept qui est négatif. Être tolérant, c'est au fond être faible, c'est-à-dire admettre l'idée que la vérité ne s'impose pas. Que la vérité religieuse, on est toujours dans le champ de la religion, bien sûr, que la vérité religieuse n'est pas une, mais plurielle. Or, la pluralité, dans l'état d'esprit des hommes, et aussi des femmes d'ailleurs, du XVIe ou du XVIIe siècle, la pluralité, c'est ce qui est mal. On n'est pas du tout pluraliste dans le système des représentations de l'époque. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'un Louis XIV fait ce qu'il fait, parce qu'il considère que la diversité religieuse dans son royaume, c'est quelque chose de négatif, qui affaiblit son pouvoir et la stabilité de son pays. Donc, c'est mal perçu. Et avec Bayle, vous avez une inversion qui va s'opérer. C'est-à-dire que de termes négatifs, tu es tolérant. Vous avez d'ailleurs, si je puis me permettre, un héritage de cette vision des choses négatives dans le concept ou dans le terme « maison de tolérance ». C'est-à-dire c'est toléré, mais c'est mis de côté, caché. On ne veut pas en parler. Et donc, oui, on tolère, mais j'aimerais mieux que ça n'existe pas. Même chose donc pour la religion. Alors, avec Bayle, on en arrive à une vision de la tolérance qui est positive, c'est-à-dire une vision positive sur le plan axiologique, pour employer un terme conceptuel. Cette évolution, là encore, et c'est on aborde un peu le sujet, si vous voulez, l'élément central, bien sûr, elle ne se fait pas toute seule. C'est-à-dire, c'est pas Bayle face à la situation refuge huguenot et de l'intolérance d'État, française à ce moment-là, de la monarchie, qui va définir tout ça. Il va aller puiser dans des concepts, dans des réalités théologiques, philosophiques plus anciennes. Et qu'est-ce qui fait qu'au fond, on a à ce moment-là cette évolution? Alors, on a d'abord un élément qui est consécutif à la révocation et au refuge, c'est-à-dire que le refuge provoque une perte de repères pour les protestants qui conduit à repenser la question de la vérité religieuse. Parce que cette vérité religieuse, elle est mise en crise par ce qu'il arrive. D'abord, l'idée de providence. Ce qui arrive, c'est Dieu qui le veut. Mais comment, dès lors, intégrer le fait que Dieu puisse accepter que sa communauté élue, protestant, qui sont pas plus tolérants que les catholiques. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'ils sont plus tolérants. Il ne faut pas imaginer ça une seconde. Comment se peut-il que Dieu, qui bien évidemment est du côté des protestants, ait laissé faire ça? Ça repose la question de la tolérance, la bienveillance de Dieu. On retrouve ça sous la plume de Bègue de manière régulière. Ensuite, on ne peut plus affirmer, au fond, la possibilité d'une vérité qui serait absolue. Hein? Au fond, le faire, ce serait aller dans le sens de la coercition. Pourquoi est-ce qu'on persécute les protestants? Ben parce qu'ils ont tort, et que la vérité doit s'imposer. C'est pour leur bien. Vous trouvez ça chez Bossuet, hein, il le dit. Par ailleurs, on assiste aussi, avant la révocation de l'édit de Nantes et en parallèle de Pierre Bayle, à, au fond, une valorisation de plus en plus forte de l'individu par opposition à la vérité métaphysique, théorique. Oui, c'est bien beau de démontrer par A plus B que Dieu existe, mais moi, j'y crois pas. Vous avez l'émergence, ce qu'on appelle les libres penseurs à cette époque-là, déjà, qui, eux, disent, oui, c'est bien, vous, monsieur Descartes, vous avez prouvé par A plus B que Dieu existe, mais moi, votre théorie, moi, je n'y crois pas du tout. Et donc, on commence à mesurer que la dimension, au fond, subjective et individuelle du religieux, ou du non-religieux en l'espèce, est plus forte que la démonstration intellectuelle. Et bien, il en tire les conséquences. Hein. Il écrit ceci, je vous le cite, ce n'est pas un texte que je vous ai mis en slide, mais puisqu'il est assez court. Il écrit, si nous voulons parler raisonnablement des droits de la vérité sur notre âme, qu'est-ce qui s'impose à notre âme et qui est vrai? Il faut considérer la vérité non pas dans son idée métaphysique, c'est-à-dire philosophique, théorique, mais telle qu'elle est en chaque personne. C'est-à-dire, au fond, il y a autant de vérités religieuses que d'individus. Parallèlement à ça, vous avez un deuxième mouvement qui est extrêmement fort et dont Bayle va être l'héritier, c'est le développement de la critique de la religion, précisément. Une critique dans un sens principalement, historique. La vérité religieuse est de plus en plus relativisée. Et là, on touche véritablement au noyau, si vous voulez, de ce qui, à mon avis, est important, c'est-à-dire ces origines religieuses des Lumières. C'est la critique biblique. Pourquoi est-ce qu'on critique, au fond, le texte biblique? Pourquoi est-ce que, petit à petit, ce texte biblique, qui est encore considéré comme sacré, comme révélé par Dieu, comme étant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ou en tout cas, qu'il la contiendrait, dans une version un peu plus subtile. Pourquoi est-ce que, tout à coup, on va considérer ce texte comme un texte comme les autres? Et voire même comme un texte qui peut contenir des horreurs. Ça, c'est ce que Pierre Bayle va dire. Eh bien, parce que, au XVIe siècle, et on l'a vu ensemble hein, au mois de novembre, il y a un événement absolument phénoménal qui se passe dans la religion européenne au sein du christianisme, c'est la réforme protestante. Et la réforme protestante, elle a une conséquence, elle en a deux principales, c'est d'une part l'éclatement religieux de l'Europe. L'Europe n'est plus unifiée sur le plan religieux, c'est fini. Il y a différentes religions, différentes confessions chrétiennes. Et puis deuxièmement, vous avez un deuxième phénomène, consécutif à ça, qui est que au sein de la réforme, on rejette désormais l'autorité du pape en matière religieuse. Ce n'est plus le pape qui donne la vérité religieuse, ce n'est plus lui qui la définit, mais c'est le texte biblique. Le texte biblique, pour les réformateurs, est au-dessus de l'Église pour ce qui est de définir la vérité. L'Église, dit Luther, les conciles, le pape peuvent se tromper, mais l'Écriture, la Bible ne se trompe pas. C'est très beau. Eh bien, le seul problème, c'est que quand vous remplacez une autorité institutionnelle, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis protestant, ils aiment bien mes amis catholiques quand je dis ça, lorsque vous remplacez une autorité institutionnelle, le pape, par un texte, et les juristes savent ça, parmi vous, un texte, il est susceptible d'être interprété. D'autant plus quand ce n'est pas un texte qui a pour vocation d'être clair, mais qui exprime plutôt des sentiments, une subjectivité, etc. Et par conséquent, la logique même voulait, c'est facile à dire a posteriori, mais c'est vrai quand même, la Belgique même voulait qu'on se dispute au sein du monde protestant sur ce texte biblique que l'on n'interprétait pas, excusez-moi, de la même façon. Exemple classique, je vous l'avais donné, je crois, c'est celui de Luther et de Zwingli sur les paroles d'institution de la scène. Hein, « Ceci est mon corps ». Jésus, à la veille de sa mort, prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Il le rompt et il le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez », etc. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que c'est vraiment son corps? Auquel cas, quand on refait au fond la scène et que l'on communie dans les différentes églises, est-ce que véritablement on mange son corps ou bien est-ce que c'est juste un symbole? Eh bien, Luther, il pense que c'est vraiment son corps à chaque fois et Zwingli lui dit « Non, c'est un symbole, c'est tout ». Donc, vous voyez que le texte biblique ne peut plus servir de norme très vite, parce qu'il est disputé. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, comment il faut le lire, comment on peut le lire précisément. Et c'est ce qui donne naissance au développement de la lecture historique du texte biblique, qui précisément émerge au XVIIe et précisément en France, avec des auteurs comme Louis Capel, par exemple, et sa critique biblique, sa critique sacrée hein, de 1650, où il prend toutes les variantes des manuscrits, ou plutôt des différentes traditions textuelles, et dans lequel il montre que l'Ancien Testament, on ne sait même pas quel est le texte d'origine, tellement il y a de versions. Vous avez la version grecque, vous avez la version accentuée en hébreu ou pas accentuée, vous avez la version qu'on trouve dans les traditions juives, vous avez des manuscrits qui divergent, enfin bon. Donc, le texte biblique qui est censé être une autorité, être un peu une espèce de loi en définitive, eh ben, on se rend compte qu'il est totalement détruit dans sa légitimité, même matérielle en quelque sorte. Et ça va conduire bien évidemment à l'idée que la Bible est un texte humain comme les autres. Ce qui était déjà un peu en germe dans l'humanisme, et là on retrouve cette idée de l'humanisme, à savoir que le texte biblique, on peut le lire. Il est sacré, c'est la révélation, mais on peut le lire avec les outils d'autres qu'on utiliserait avec d'autres textes pour essayer de l'éclairer. Donc ça, c'est quelque chose qui aboutit finalement à la fin du XVIIe siècle à une crise religieuse qui est déjà en germe au fond et qui va alimenter une machine de critique à l'endroit de la religion chrétienne. Et ce qui est très intéressant, c'est que les critiques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui lisent le texte biblique avec un œil plus historique, comme ceux que j'ai mentionnés, Capel et d'autres, qui sont des protestants, des théologiens, eh bien, c'est leurs idées, leurs thèses, au siècle suivant, vous les retrouvez chez les critiques du christianisme. Hein, ça a été très bien montré dans plusieurs études. Tous les arguments textuels et même philosophiques aussi que vous trouvez chez Voltaire et chez d'autres, chez D'Holbach, Helvétius, contre le texte biblique pour dire c'est du n'importe quoi ce texte biblique, on veut nous faire croire que c'est la vérité, mais alors c'est un tissu de mensonges, ils vont chercher leurs arguments chez des théologiens qui ont commencé au XVIIe à lire le texte biblique de manière critique. Et donc tout ça, si vous voulez, conduit à ce que la lecture du religieux bascule à ce moment-là de l'objectivité à la subjectivité. On est en train de s'apercevoir que la vérité, je mets des guillemets, hein, la vérité religieuse n'est pas de l'ordre de l'objectivité, c'est pas comme les mathématiques, c'est de l'ordre de la subjectivité et donc de l'individu. Et cette réalité-là, elle est déjà présente dans le protestantisme, avec en particulier l'idée de la foi individuelle. Quand Luther dit, il te faut, dans ses prédications, il te faut décider, c'est maintenant le moment pour toi de te décider dans la foi, vous avez une subjectivisation qui est en train de s'opérer, mais qui n'est pas consciente en quelque sorte, et qui émerge à la fin du XVIIe siècle. Et c'est ce dont Bayle va tirer les conséquences. Et il le fait dans un grand texte de 1686 qui s'appelle le Commentaire philosophique ou qu'on appelle maintenant le Traité de la tolérance. Ce que Bayle veut y montrer, c'est que la logique de la persécution religieuse ne tient pas sur le plan intellectuel. Pourquoi elle ne tient pas? Parce que cette logique de persécution religieuse, elle est fondée sur une justification biblique de la contrainte. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 16 à 23, vous avez ce que l'on appelle la parabole du banquet. Jésus qui raconte une histoire. C'est un homme qui veut inviter des gens à un dîner et un banquet, et il envoie ses serviteurs chercher des gens dans la rue pour leur dire: je vous invite à ce repas. Et ils ne veulent pas. Et donc, le maître dit à ses serviteurs, ou à son serviteur: ceux que tu trouveras dans la rue, contrains-les d'entrer. Compelle intrare en latin. Et ce texte de l'évangile de Luc, ça a été depuis Saint Augustin, 4e, 5e siècle, jusqu'à l'époque de Pierre Bayle, plus de 1000 ans, l'argument massue pour justifier la contrainte imposée aux hérétiques. Donc vous voyez que quand on a des débats sur les textes fondateurs des grands monothéismes qui prêchent la violence, qui ne la prêchent pas, etc., etc., moi j'ai tendance à dire à mes étudiants en théologie, avant d'aller regarder ce qu'il y a chez les autres, commencez à balayer devant nous. Commençons plutôt, je me mets dans l'eau, commençons à balayer devant notre porte. Hein. N'importe quel texte religieux peut être interprété dans un sens qui est profondément intolérant et violent. Et c'est une réalité dont on doit tenir compte quand on est un intellectuel ou un pasteur protestant ou chrétien plus largement. Hein. C'est tout à fait intéressant parce que ce texte ne dit pas du tout ça d'après les exégètes contemporains. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une légitimation de la contrainte religieuse, mais pendant 1000 ans, ça a été lu comme ça. À cause du père de l'Église, saint Augustin, qui a été celui qui a expliqué qu'il valait mieux contraindre les hérétiques à entrer dans la vérité plutôt que de les laisser errer. Et donc, ce que Bayle va critiquer, c'est cette idée d'une perception positive de la contrainte. C'est-à-dire, avant de démontrer l'aspect positif de la tolérance, il va démonter la dimension positive de la contrainte. Comment est-ce qu'il procède? Alors, son texte s'appelle Commentaire philosophique. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut résoudre la question de la violence religieuse que si l'on s'intéresse à la question sur un plan philosophique et non pas théologique. Autrement dit, quand on lit ces paroles du Christ, contraint-les d'entrer, il ne faut pas les lire avec en ligne de mire ce à quoi on contraint les gens, c'est-à-dire la vérité religieuse, mais avec en ligne de mire la réalité de la contrainte. Or, cette question de la contrainte, est-ce qu'elle est légitime ou est-ce qu'elle ne l'est pas, elle ne peut pas être tranchée théologiquement, c'est-à-dire en fonction de la vérité religieuse, parce que sinon, vous aurez la guerre. Parce que chacun disant, mais j'ai la vérité, c'est normal que je te force à revenir à cette vérité. Donc, si on veut sortir des guerres de religion, des intolérances, etc., Bayle dit qu'il faut en finir avec la théologie. Ça suffit. Plus de théologie. Ce qui compte maintenant, c'est une approche philosophique pour définir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et il faut donc établir le point de départ, si vous voulez, le camp de base de la réflexion sur une réalité qui est rationnelle et non plus religieuse. Pourquoi, dit Bayle, mais regardez, ça fait un siècle qu'on se bat pour des vérités religieuses et on voit bien qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Regardez la critique biblique, on se bat autour de versets pour dire il faut le comprendre comme ceci ou comme cela, alors qu'on n'est même pas sûr que ces versets, ils ont été écrits comme ça par leur auteur, CF, la critique biblique. Donc, tout ce qui est de l'ordre du religieux, et c'est là, si vous voulez, le moment de bascule, en quelque sorte, c'est que pour Bayle, la religion est une réalité subjective. On ne peut être sûr de rien en matière religieuse, donc il faut transposer le débat dans un domaine dont on peut être sûr, et ce domaine, c'est celui de la morale. La morale, c'est une réalité rationnelle pour Bayle. La lumière naturelle, dit Bayle, c'est une étamine, c'est un crible au fond à partir duquel on peut interpréter ce qu'est la réalité religieuse et ce qu'elle implique. Au fond, il y a une priorité qui est celle de l'impératif éthique. Et c'est ce texte ici, pardon, de Bayle que je voulais vous donner, hein, dans lequel il écrit une telle chose, il faut au fond que chaque personne se demande par rapport à un acte posé au nom de la vérité religieuse, se pose la question suivante. Est-il juste de persécuter? Là, on va se poser la question. Une telle chose est-elle juste? Et s'il s'agissait de l'introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage et où il serait libre de la prendre ou de ne la pas prendre, verrait-on en l'examinant froidement qu'elle est assez juste pour mériter d'être adoptée? Autrement dit, l'évidence religieuse, il faut toujours la déporter, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, nous autres protestants, nous avons raison, disaient les protestants là où ils étaient majoritaires. Donc, nous avons le droit de persécuter les catholiques, c'est ce qui se passe en Angleterre, hein. Et si on inverse les choses, est-ce qu'on peut appliquer ça en France? Ben, si on applique ça en France, dit Bayle, ben, c'est l'inverse, c'est la logique qu'applique Louis XIV. Voyez? Donc, c'est cette idée de la, au fond, de la réciprocité, hein, qui se développe là, et donc qui montre pour Bayle que la seule réalité fiable, c'est la réalité éthique. D'où cette question. Est-ce que ce qui est premier, c'est la vérité religieuse ou la dignité, la liberté humaine? Et là, ben, il répond très clairement en disant, c'est la liberté et la dignité humaine qui est première. Parce que la religion n'est que l'expression de la subjectivité de l'individu. Donc, on ne peut pas. Vous voyez, il y a une hiérarchie qui change, hein, avec Bayle. Et c'est ça, peut-être, ce moment qui est le plus important, si vous voulez. C'est ce moment où, au fond, ce n'est plus le vrai théologique, religieux, qui est au-dessus du reste, mais c'est l'être humain et sa dignité, sa liberté, ses droits qui deviennent centraux. Et ça, on le trouve, n'est-ce pas, chez Bayle. C'est un des premiers à le dire. Donc vous avez un triple phénomène qui s'exprime chez lui. D'abord, la primauté du fondement moral de la religion, pardon, du fondement moral sur la religion. Ensuite, deuxième élément, l'abandon de l'objectivité et du règne de l'évidence en matière religieuse, ce n'est que de la subjectivité. Et puis enfin, le respect induit par ce principe moral premier, le respect de l'être humain, le respect qu'il faut avoir, selon Bayle, pour les convictions religieuses des uns et des autres. Pas si l'idée, c'est qu'il faut respecter l'être humain. Or, cet être humain a des croyances qui sont subjectives et extrêmement diverses, eh bien, respecter l'être humain, c'est respecter cette diversité des croyances et la sincérité subjective qui va avec. Autrement dit, Bayle dira, on ne peut pas contraindre, même ce qu'on appelle à l'époque les opiniâtres, parce que c'est dans leur tripe, dirions-nous aujourd'hui. Ça fait partie de leur être profond. Donc vouloir les contraindre à la conversion, c'est faire tort à la fois à la vérité religieuse, parce que si on est convaincu de ce qu'on croit, ben, cette vérité devrait s'imposer d'elle-même, hein. Pierre Bayle dira, c'est facile de faire croire à la vérité de l'Église catholique en utilisant l'épée des dragons. Mais ces dragons, vous leur demanderiez, c'est dans le texte, hein, de Bayle, vous leur demanderiez à ces chers dragons de faire croire, de faire en sorte que les protestants croient au Coran, ben, ils croiraient au Coran. C'est facile de forcer les consciences. Donc il faut respecter les consciences et c'est d'ailleurs ce qui permettra à la société, dit Bayle, d'être beaucoup plus apaisée et qui permettra d'ailleurs un enrichissement, même économique, dit-il. Hein, et effectivement, Louis XIV aurait été bien inspiré de s'inspirer de lui, puisque perte des protestants va induire chez les, en France une crise économique, ou en tout cas un déclin économique passager. Alors, ce qui est frappant chez Bayle, et puis bon, ben, je ne vais pas vous parler de Rousseau parce que j'ai trop parlé, mais je peux y revenir hein, si vous le souhaitez un petit peu par la suite, vous me direz. Ce qui est frappant chez Bayle, c'est au fond l'adaptation à laquelle il procède d'un héritage protestant. Je suis libre de choisir ma croyance. Au fond, c'est le libre examen protestant. J'en ai le droit, c'est le sacerdoce universel. Personne ne peut choisir sa place, il y a un refus du magistère, etc. Tous ces principes protestants, au fond, Bayle les récupère, de même d'ailleurs que les principes de l'humain de la Renaissance, hein, la centralité de l'individu, sa liberté, etc., mais en les mettant au fond, et c'est pour ça qu'il est révolutionnaire, en les soumettant à un principe supérieur qui est celui de la dignité, au fond, de l'être humain. Fondé sur un impératif moral, éthique, supérieur à tout autre. Il préfigure déjà Kant, ce qu'on appelle l'impératif catégorique, de ce point de vue-là. Donc, il est véritablement de plein pied dans les Lumières. Il en est même un des pères, si vous voulez, tout en étant l'héritier de toute cette tradition-là. Et en proposant une lecture de la religion qui, vous le voyez bien avec ce que je vous ai proposé là, même si lui-même finalement était peut-être un athée, nous n'en savons rien, mais si lui-même était peut-être un athée, en tous les cas, sa philosophie ne rejette pas la possibilité de l'existence d'une religion, bien au contraire, puisqu'il plaide ici pour la diversité religieuse, comme quelque chose de positif. Et ça, c'est réellement premier dans sa pensée. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler en particulier de Bayle, parce que on voit bien, n'est-ce pas, avec lui, pour revenir à notre préoccupation première, que les Lumières, c'est à la fois ce que je disais, c'est-à-dire un mouvement de réflexion sur ce qui est en train de se passer, hein, qu'est-il en train de se passer dans cette pauvre Europe qui se déchire à ce moment-là, alors que Descartes nous annonçait l'âge de la raison, voilà, que l'on chasse des gens, des Français, pour des motifs religieux. Est-ce que c'est raisonnable ? Donc là, Bayle est effectivement dans cette perspective-là, mais tout en gardant, si vous voulez, la possibilité pour la religion d'exister. Alors bien évidemment, l'autre question qui va se poser, n'est-ce pas, là, c'est comment, au fond, la religion peut-elle continuer à exister dans un monde où elle est précisément éclatée ? Ça, c'est la question de Bayle. Vous avez une autre question qui va émerger, qui est la question de savoir, eh bien, au fond, cette religion, avec l'émergence de la science, hein, le siècle de Newton, etc., de l'histoire aussi, la critique du texte biblique qui devient un document comme les autres, etc., qu'est-ce qu'il en reste de cette religion chrétienne ? Bon, certains diront ben, il faut l'abandonner, il faut passer à autre chose, hein, c'est l'être suprême de Voltaire, mais de Robespierre, pardon, le dieu horloger de Voltaire. Mais vous avez aussi des auteurs qui considèrent qu'il faut relire le christianisme autrement, parce que le christianisme reste valable. Vous avez des auteurs juifs qui font la même chose, et c'est le début de ce fameux mouvement libéral dont je vous ai parlé. Et parmi ces auteurs, ben, il y a justement Jean-Jacques Rousseau, dont j'avais l'intention de vous parler, mais sur lequel je vais malheureusement faire l'impasse, parce que, comme d'habitude, je suis trop bavard. Mais je peux vous en toucher quelques mots, si vous avez encore un peu d'énergie, vous me direz. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention.